Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous pour un nouveau numéro du meilleur de Sud Radio. Pendant cette prochaine heure, je vous propose qu'on réécoute ensemble des extraits des temps forts de cette semaine, comme chaque week-end. Et on commence avec le Loft Music. Lundi, Yvan Cugius recevait le chanteur Michael Jones, l'occasion pour l'un des plus anciens membres des Enfoirés, qui a soufflé sa 69e bougie le 28 janvier dernier, de se prêter au jeu du quiz et de revenir sur les propos très déplacés de Fabien Lecoeuvre envers la chanteuse Oshi. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Michael Jones est dans le Loft Music. Le quiz tout de suite. Michael, tu vois, j'ai une trompette. Moi, je suis devant mon piano aussi. J'ai une trompette, je fais un petit quiz. Il va falloir que tu retrouves le nom des chansons juste avec la mélodie. Et pour ceci, voilà que Frédéric de Blagnac arrive sur le 0800 26 300 300. Bonsoir Frédéric, merci d'être
bonsoir.
Là.
Bonsoir Yvan, bonsoir Michael, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Vous habitez Blagnac, à côté de Toulouse, Frédéric.
Blagnac, à côté de Toulouse. Et ça me fait plaisir de savoir que Michael venait souvent à Toulouse, notamment pour enregistrer. Ouais. Voilà.
Je venais même à Blagnac.
Oui.
C'est vrai
ouais,
ah
oui.
Ouais. Il connaît tout le monde. Ma fille a fait l'ENAC à Toulouse aussi.
Ah oui.
Et il y avait un studio à Blagnac.
Oui. Le Polygon, le studio Polygon.
J'ai travaillé là-bas aussi.
Et puis très souvent aussi à Marseille. Hein
et oui. Et puis il cite très 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 souvent Michael Jones dans ses chansons La Ville. Hein. I was born Toulouse, par exemple. C'est un truc qui revient très très souvent. C'est un mec fidèle, Michael Jones.
Il y avait un groupe qui répétait Toulouse tout le temps. Ça faisait No time to lose, no time to lose, no time to lose.
Ah, c'est clair. Quand t'es arrivé en France, t'as dû te dire mais Toulouse, qu'est-ce que c'est cette ville justement
mondialement connue.
Mondialement connue. Tout le monde en parle, le monde entier. Toulouse to win. Je cite Nougaro qui a fait une chanson qui s'appelle Toulouse to win, évidemment.
Alors, moi, Simon... c'était surtout un peintre qui faisait des affiches qui me rappelle Toulouse aussi un peu.
Dis-moi.
Toulouse-Lautrec.
Ah oui, Toulouse-Lautrec, évidemment, bien sûr. On salue la ville d'Albi, d'ailleurs, dans le Tarn. Alors, écoutez, est-ce que vous allez trouver ceci ? C'est lié, évidemment, à la carrière de Michael Jones. Je me recule un peu. C'est facile, normalement. Hein.
Dès que vous avez la réponse, vous dites. Moi, je ne peux rien dire, alors.
Si, toi, tu peux trouver aussi. Tu joues face à Frédéric. Frédéric de Blagnac contre Michael Jones du Pays de Galles.
Toulouse. Bon, il va battre.
De Toulouse. Allez.
Oh, Maxime Le Forestier.
Oui, c'est Michael qui a répondu en premier.
Ce soir à la brune, nous irons ma brune cueillir des serments.
Frédéric chante
de la dernière qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants.
Bravo Frédéric.
Pour toi ma princesse, j'en ferai des passerelles dans tes cheveux.
Joli coup Frédéric. Bravo
ça me
Frédéric.
Me rappelle 18 ans.
Maxime qui sera un de mes invités bientôt.
Oui, j'ai vu dans ton émission Confiture.
Voilà.
Et dans les choix musicaux que tu m'as fait en confidence et à Enzo Ramos, il y a le steak de Maxime Le Forestier. On écoute un petit extrait de ce steak. Et pourquoi le steak ? C'est une chanson que je connaissais pas de Maxime.
De pain pareil, mêlez-toi dans les oreilles, fais comme si j'étais pas là. Je ne chante pas pour toi.
Pourquoi cette chanson en particulier, Michael
Jones ?
Parce que
c'est une situation qui arrive à beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens qui ont commencé à jouer soit dans les bars, dans les restaurants, dans les casinos, où les gens sont venus manger pour écouter la musique. Je ne comprends pas pourquoi ils viennent dans un endroit où il y a de la musique. Et c'est le truc souvent, ils nous disaient, mais vous pouvez baisser un peu, on ne s'entend pas parler. Et dans cette chanson de Maxime, il décrit vraiment très très bien cette situation. C'est hyper frustrant pour un artiste qui est là pour faire sa musique et qu'on voit visiblement que les gens dans l'assistance ne l'écoutent même pas. Quoi. C'est parce qu'ils sont venus pour bouffer, ils ne sont pas venus pour écouter de la musique.
Ouais, c'est terrible ça. Beaucoup de musiciens l'ont connu malheureusement. Ceci, deuxième devinette à la trompette. Écoutez ceci, alors que je me repère, oui c'est ça. Ah, c'est pas facile ça. On va demander à Pauline nous rejoint, je la vois là, dans le Facebook Live. Bonsoir Pauline, merci d'être là.
Salut Yvan. Mais je t'en prie, salut Michael.
Salut. Il y a Michael Jones.
Comment tu vas?
Il y a Frédéric.
Très bien.
Je suis content, vous vous connaissez visiblement, Pauline.
Oui, on s'est croisés, on s'est croisés il y a quelques temps, mais oui, j'ai un très 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 beau souvenir d'un plateau multi-artiste. Ouais.
Vous vous souvenez, ça s'appelle Allô le Monde, Pauline. C'était dans quelle année, Pauline, Allô le Monde? On va en écouter un petit extrait. 2007
2008.
2008,
ça a explosé en 2008.
Ah ouais. C'est en 2008 que le monde a explosé grâce à Pauline. Alors, mon petite Pauline, t'as reconnu la mélodie de ce que j'ai fait à la trompette? C'est assez récent, hein? C'est une fille qui chante ça. Ça, vous allez vous dire,
ouais,
mais oui, bien sûr.
Tu peux le refaire?
Ouais, avec plaisir. Ah ben oui, avec plaisir.
Ah, mais c'est pas aussi.
Oui, joli coup. Vérification. Mais yes.
Bravo.
Ouais, elle vous a ruiné, Pauline, elle arrive, on vient, on gagne, on s'en va, quoi. T'as ruiné tout le monde direct, Pauline.
Mais elle est m'appelée
avant. Mais oui. Ça, ouais, hein? Bon. Yvan, t'as pas parfaitement bien respecté la rythmique.
Ouais,
mais bon,
ouais.
Parce
oui,
que moi, j'adore Oshi. J'adore Oshi. Mais comme Pauline aussi, c'est des vrais artistes qui chantent des vraies chansons. Moi, j'en ai marre d'entendre des chansons qui sont tout réglées par autotune à outrance et qu'on ne reconnaît pas la voix de la personne. Et quand on tombe sur des vrais artistes qui ont des vraies chansons avec des vrais textes, c'est du bonheur pour moi.
Oui, oui. Et puis, on fait un gros bisou à Oshi, qui a quand même, dans cette période récente, a été confronté à des choses pas très jolies. Et on l'embrasse fort, Oshi. Vous avez suivi hein, ce lien avec le physique des artistes qui était pour le moins maladroit et surtout inutile, en fait. Mais voilà, Oshi est une belle
c'est
artiste.
C'est-à-dire que je ne sais pas comment on peut juger un artiste par son physique. Imaginons que si on jugeait un artiste par son physique, Adèle, on ne l'aurait jamais connue.
Ah oui, oui, ah oui, ça c'est sûr.
C'est juste immense, Adèle. Oui, oui, et Oshi, moi je trouve qu'elle a un vrai physique. Elle a un physique. Moi je la trouve belle, merde.
Oui, moi aussi.
Elle a quelque chose dans son attitude, dans son physique, qui est hyper attachant. On n'a pas besoin d'avoir une plastique de mannequin qui est passé chez tous les chirurgiens esthétiques.
Non, c'est vrai. Et un artiste, c'est une aura aussi. C'est juste dégager quelque chose de puissant, de fort, et je pense que c'est ce qu'elle fait très très bien.
Ah oui,
on est bien d'accord.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Yvan Cujus et ses invités vous donnent rendez-vous de 20h à 21h dans le Loft Musique avec des lives inédits. Restez sur Sud Radio, on va revenir dans un instant avec Philippe Rossier et toute l'équipe des Vraies Voix qui ont débattu sur les millionnaires en France et avec l'invité de la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus qui a rendu hommage à Napoléon. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. Je suis ravie de vous accompagner et de réécouter avec vous des extraits des temps forts de cette semaine. Et on continue d'ailleurs avec l'équipe des Vraies Voix. Mercredi, pendant leur tour de table de l'actualité, Philippe Rossi et ses chroniqueurs Françoise Degois, Philippe David et Philippe Bilger ont débattu sur l'enrichissement des milliardaires français et l'éventuelle augmentation des taxes pour les ultra-riches. Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Il y en a bien qui n'ont rien. Absolument rien, on en parle assez. Alors pourquoi sur la part qui ont tout, ça rétablirait la balance, le juste équilibre, l'harmonie universelle.
Ah, quelle affaire, me voilà milliardaire. Enfin, je vais pouvoir m'offrir, c'est mon désir, tous les plaisirs.
Les milliardaires, selon le dernier classement Bloomberg, eh bien c'est en France que ces milliardaires s'enrichissent le plus. Plus 439%, ça c'est la hausse du patrimoine des milliardaires français. Alors sur 11 ans, entre 2009 et 2020. Et alors, situation information inédite, dans le top 30 du classement Bloomberg, on dénombre désormais 5 Français, dont 2. Deux d'entre eux qui font partie des 10 personnes les plus riches du monde. Donc il y a évidemment Jean Dorido, Bernard Arnault, voilà, troisième fortune au monde. Et alors il y a aussi Françoise Bettencourt-Meyers, voilà, l'héritière de L'Oréal, qui est la 11e fortune au monde. Ah oui. Voilà, et qui sont donc des Français et des Françaises. Est-ce que ce classement vous surprend? Vous dites non sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, non à 73%. Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer davantage les ultra-riches? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. On va en parler. C'est vrai qu'avec le Covid, on s'est posé la question ces dernières semaine. Sabine nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Sabine.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, ma chère Sabine. Bienvenue. Bienvenue à vous, Sabine. Quel temps fait-il, tiens, dans l'Hérault? Ça y est, les beaux jours recommencent. Hein. Ah oui. Ça y est, ça
alors,
y est.
Alors, quel temps fait-il? Il fait 20 degrés. Ah, je suis à l'ombre parce qu'en pull, il fait trop chaud. Par contre, le matin, c'est frisqué.
Eh oui, voilà. Mais vous, une petite perturbation, nous a dit Rémi André, encore demain. Et après, ça devrait aller mieux, ma chère Sabine. Alors, surprise par ces milliardaires qui s'enrichissent encore et encore en France?
Non, pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'étonner. Ça peut énerver, ça peut décontenancer, ça peut faire plein de choses. Mais je pense que la surprise n'est plus là, non. Non, non, ça ne m'étonne pas du tout, au contraire. Ouais.
Est-ce que ça vous embête ou pas? Dites-le nous franchement, Sabine.
Ça me met en colère.
Ouais.
J'aurais tendance à me mettre en colère parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens en difficulté. Je m'occupe d'une commission d'aide financière, on aide des gens en difficulté. Après, si... on fait quelque chose, s'ils font quelque chose de ces personnes-là pour les gens défavorisés, qu'ils essayent au moins de faire quelque chose, ça serait bien de ne pas les obliger, ça serait bien que ça vienne d'eux. Est-ce que c'est encore possible? Je ne sais pas.
Mmh. Alors, juste petite précision, quand on vous donne ces chiffres astronomiques de leur fortune, c'est la fortune si jamais ils revendaient leurs actions. Voilà, mais il faut bien le préciser, hein. Ça leur appartient sans leur appartenir, hein. C'est ça, hein, Jean.
Bon, c'est-à-dire que c'est potentiel,
c'est,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Qu'ils n'ont pas vendu
fortune
leur capital.
Potentielle, mais rassurez-vous, ils ont de quoi vivre, hein, rassurez-vous. Alors, Adrienne Breton, juste après Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord avec Sabine? Tiens, est-ce que ça vous met en colère? C'est riche, c'est milliardaire, de plus en plus milliardaire en France.
Je pense que ce qui embête ou énerve peut-être les Français, c'est pas tant la progression du revenu des 1% les plus riches, mais le sentiment qu'il y a un écart entre cette progression des plus riches et un niveau de vie global des Français qui est plutôt en stagnation. À la limite, si on avait une société où le niveau de vie de tout le monde augmentait, bon, bah, on se dirait effectivement les plus riches s'enrichissent, mais moi aussi je me suis enrichie. Donc bon, finalement, ça serait moins choquant que cette situation. On a l'impression que les plus riches ont une accélération de l'augmentation de leurs revenus et le commun des Français a plutôt une stagnation. Il n'y a qu'à voir, par exemple, je regardais l'âge moyen auquel on achetait une voiture neuve. Il y a quelques années, dans les années 90, la voiture neuve, on l'achetait, on avait 40 ans en moyenne. Aujourd'hui, on a 55 ans.
Ouais.
Donc ça montre quand même le sentiment d'appauvrissement qu'ont les Français. Pareil pour le logement. Et donc je pense que c'est ça qui choque. Certes, les 1% les plus riches sont de plus en plus riches, mais ce qui choque surtout, c'est l'écart par rapport aux Français qui ont le sentiment que eux, ça ne...
C'est incroyable de dire qu'on s'achète
pas
une voiture neuve alors qu'on est à 5-7 ans de la retraite.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est Philippe Bilger. Non mais vous avez raison, alors, cette comparaison veut tout dire. Philippe Bilger.
Ouais, d'abord, je voudrais m'excuser auprès d'Adrienne, puisque tout à l'heure, de manière scandaleuse, j'ai confondu Benoît Hamon et Laurent Geoffrin, ce qui est vraiment une catastrophe.
Oui, Benoît Hamon, c'est mouvement génération.
J'aurais pas répondu pareil.
Voilà, ça n'est pas du tout pareil.
Benoît Hamon, c'est génération, voilà.
Ça ne veut pas dire qu'Adrienne est inconditionnelle, je pense, à l'égard de Laurent Geoffrin. Mais plus sérieusement, d'abord, je voudrais résister à cette espèce de jalousie sociale qui vient automatiquement lorsqu'on apprend des sommes et des fortunes pareilles, à partir du moment où elles ont été acquises de manière honorable. Et la plupart du temps, j'espère que c'est le cas. Le deuxième élément, bien sûr, dans une période comme celle d'aujourd'hui, et peut-être même dans la normalité de notre pays, plutôt que l'égalité, qui est une notion en définitive que je n'aime pas trop, les Français ont besoin de sentir qu'il y a de l'équité dans la distribution des richesses. L'équité, c'est fondamental. Et le troisième élément, puisque vous avez posé la question pour Sud Radio, Philippe, je trouverais assez normal que dans une période exceptionnelle, celle que suscite pour le pire la pandémie, on puisse éventuellement envisager une taxation supplémentaire des gens qui dépassent les limites, je veux dire, les plus extraordinaires de la fortune.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Et rendez-vous dès lundi de 17h à 19h avec Philippe Rossi et toute l'équipe des Vraies Voix. On continue avec un extrait de la matinale de mercredi. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Patrick Roger et Cécile de Ménibus recevaient l'historien Richard Fremder, venu présenter son livre « Napoléon à la plage ». Écoutez.
Le meilleur de Sud Radio.
Vous avez l'impression que Napoléon n'est pas très bien connu des Français, c'est ça, Dimitri Casali et Richard Fremder?
C'est le moins que l'on puisse dire. Là, chaque jour, j'entends un nombre d'âneries, mais c'est hallucinant. C'est,
ça peut être de l'interprétation, quoi, non?
En fait, c'est ça, le vrai problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune critique scientifique aujourd'hui correcte. Tout est basé sur l'anachronisme et le mensonge aussi. Il y a beaucoup de mensonges qui sont colportés sur Napoléon. Et ça devient insupportable aux oreilles d'un historien.
Sur quel sujet, par exemple?
L'esclavage, on en a parlé. Mais aussi sur le nombre de massacreurs, qu'il a déjà le chiffre de morts. Là, ce matin, j'ai entendu sur une radio 3 millions de morts. Mais c'est hallucinant. Parce que pour la France, c'est uniquement 680 000, vous me direz, c'est beaucoup. Ouais. Ça fait la bataille de Verdun, si on compare. Et 1 million pour l'Europe. Donc 1 600 000, ça c'est les vrais chiffres. On est loin des 4 millions que j'ai entendus ce matin sur une grande radio. Mmh. Et surtout, le fait essentiel, c'est que Napoléon n'a jamais déclaré la guerre. C'est ça.
Il a riposté, en fait.
Il a riposté. C'est le continuateur de la Révolution. La Révolution française, c'est elle qui a commencé à envahir les autres pays pour essayer de transmettre les idéaux de la Révolution. C'est une guerre, comme le dit très bien Jean Tullard, entre les vieilles monarchies féodales. La France avait aboli les privilèges. Et alors qu'en Russie, en Autriche, en Prusse, c'était la vieille monarchie féodale absolument...
Mais alors, pourquoi il suscite autant de controverses, Richard Fremder, peut-être sur cet aspect des choses et même sur une interprétation, diront certains, une déformation, diront d'autres, comme Dimitri Casali, en fait, à l'instant.
Comme dit Dimitri Casali, on regarde Napoléon, mais on regarde l'histoire en général avec nos yeux d'aujourd'hui. Ce qui est une erreur monumentale. C'est ce qu'il faut évidemment éviter de faire et c'est ce qu'on doit surtout éviter de faire et c'est ce qu'on doit apprendre à l'école. Surtout ne pas voir l'histoire de France ou l'histoire en général avec nos yeux d'aujourd'hui. Ça veut rien dire. On parlait de l'esclavage, vous l'avez dit tout à l'heure, le monde entier pratique l'esclavage. Esclavage à cette époque-là. George Washington est l'un des plus grands esclavagistes de son temps. Jefferson également est esclavagiste. Ils ont été présidents des États-Unis. Personne n'en parle. C'est pas grave. Mais on tape sur Napoléon parce que c'est pas bien. On parle pas aujourd'hui des 40 millions d'esclaves dans le monde. C'est curieux. Donc c'est ça le vrai problème, c'est que ça déforme les choses.
Ce qui est fou, c'est que...
Pardon. Surtout, Napoléon aussi, c'est l'excès. C'est le personnage romantique par essence.
Non, mais c'est ça,
c'est la démesure.
C'est pour ça qu'il suscite autant, évidemment, peut-être de controverses, de passions d'un côté, et puis de l'autre côté, de polémiques, quoi, bien sûr, parce que en l'espace de... On rappelle quand même un peu le cadre. Il a été combien de temps son règne?
C'est 15 ans.
Je dis un règne, mais il n'était pas roi.
Météore en 15 ans. Il a tout bouleversé. Il a tout changé. Napoléon, c'est un héros tragique grec. Il est digne d'Alexandre et de Jules César. Et c'est ça qu'on lui reproche aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour ces héros mythiques. C'est ça.
Au sortir de la Révolution française, c'est quand même l'homme providentiel que tout le monde attendait.
Alors l'homme providentiel, ça c'est extrêmement important. Pourtant, vous avez vraiment mis le doigt dessus, parce que en plus, à cette époque-là, ils sont cultivés. Contrairement à d'autres époques, je ne reviendrai pas dessus. Mais ils connaissent l'histoire. Et la France, c'est typiquement l'endroit où on attend l'homme providentiel. Ça commence avec Vercingétorix, ça finit pas bien. Ouais. Ça continue avec Jeanne d'Arc, ça finit pas vraiment bien. On peut continuer comme ça, il y a Henri IV, ça finit pas bien non plus. Mais on a ce besoin de l'homme providentiel. Et l'homme providentiel, c'est celui qui arrive quand tout va mal. Et il doit arriver, tout rétablir et s'en aller. En général, il s'en va pas bien. Alors, effectivement, Napoléon Bonaparte pense, il sait qu'il a un destin. Imaginez, à 24 ans, il est général. À 30 ans, il est empereur. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il sait qu'il a un destin. Il y a un destin important. Mais l'homme providentiel, il ne vient pas tout de suite. On a eu des volontés. On a eu Lafayette qui pensait, lui, être l'homme providentiel. Parce que la Révolution, ça commence à faire long, à faire beaucoup. La France est ruinée, il faut imaginer ça. La France est ruinée
intégralement. Ça, il faut le redire encore une fois.
Il n'y a plus rien. La France a perdu sa place dans le monde. Elle a perdu 40% de sa production industrielle, de sa production en général, sauf l'armée, évidemment. Donc, Lafayette pense être l'homme providentiel. Manque de peau, il donne d'abord au moment où Louis XVI s'en va, donc on l'appelle Monsieur. Il a un surnom, c'est Monsieur Morphée, le général Morphée. Voilà, ensuite, il fait tirer sur le peuple, donc ça, évidemment, on ne le pardonne pas. Il y a Dumouriez, pareil. Dumouriez, ça rate. Il y a Pichegru, ça rate aussi. On va en chercher un, on se dit, allez, tiens, il y a effectivement un petit général qui. Ça marche plutôt bien en Italie, effectivement, ça réussit plutôt bien. Bonaparte, avec un nom bizarre. Bon, ça marche bien, mais on va l'envoyer en Égypte pour qu'il ait des belles victoires. Et manque de peau, Nelson coule sa flotte et il est perdu à des milliers de kilomètres. Donc il n'est plus l'homme providentiel. Il faut en trouver un autre d'homme providentiel. Et on va chercher le général Joubert, qui est né à la même année.
Et le général Moreau aussi.
Oui, mais Moreau. Ça ne marche pas longtemps, parce qu'il n'est pas politiquement correct déjà à l'époque. Mais on trouve Joubert qui est politiquement correct, assez à gauche. Alors on le marie avec une très belle femme, qui est noble. Alors donc du coup, il a l'aile droite. Il est très amoureux de sa femme. On doit l'envoyer à une bataille en Italie. Mais il est tellement amoureux de sa femme qu'il ne part pas tout de suite. Il reste une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Ça fait long. Bah, il l'aime bien, qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Et quand il arrive quand même à la bataille, il sort son petit médaillon. Il embrasse sa femme, très belle femme. Il sort son sabre. Il dit en avant. Et au moment où il dit en avant, il prend une balle dans la tête. Fin de l'homme providentiel.
Ouais.
Il en reste un qui revient et qui enfin a compris, et il arrive donc le 18 Brumaire. Voilà l'homme providentiel.
Ouais, ouais.
Mais les Français entretiennent une relation, on peut dire, schizophrénique avec leurs hommes providentiels.
Ah oui, ouais, ça finit toujours
très bien. C'est fou que le pays de la passion de l'histoire, hein, je rappelle, l'histoire est une passion française depuis 200 ans. En fait, les Français sont incapables d'être fiers de leur belle et grande histoire, comme s'ils en ont honte, mais de plus en plus honte. Regardez.
Elle n'est pas toujours belle, quoi. Aussi, il y a des chapitres terribles. Non, mais c'est l'histoire.
Maintes fois, elle a failli disparaître. Regardez en 2015 comment les Britanniques ont célébré Winston Churchill avec une défaite absolument mémorable, avec une procession funéraire sur la Tamise et tout. Il y avait plus de 500 000 personnes qui avaient tout fleuri. Là, je regrette pour Napoléon, ça reste quand même pourtant.
Mais pourquoi on l'oublie tout ce qu'il a apporté finalement?
Parce qu'on est dans un régime républicain et la République ne veut pas reconnaître que toutes les institutions de la République ont été créées par Napoléon.
Alors, si on les rappelle, le Code civil, la Légion d'honneur, le baccalauréat, la numérotation des rues, tout simplement, le ramassage des ordures, les départements, les lycées, les préfets, les prud'hommes, la Chambre de commerce, la Cour des comptes, le Conseil d'État à Paris, l'Arc de Triomphe, le Canal de l'Ourcq, la rue de Rivoli, l'église de la Madeleine, et encore, je m'arrête là. Oui, c'est ça, le boulevard des Maréchaux. C'est vrai que la liste est longue et en régions aussi, des villes qui ont été constituées, la garnison de La Roche-sur-Yon, par exemple, effectivement, qui ont été créées ex nihilo.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Macdine.
Et rendez-vous dès lundi de 7h à 10h dans le Grand Matin Sud Radio pour retrouver Patrick Roger, Cécile de Ménibus et leurs invités. Ne bougez pas, on va en revenir dans quelques minutes avec André Bercoff et son invité Bernard-Henri Lévy. A tout de suite.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Macdine.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le meilleur de Sud Radio. C'est toujours un vrai plaisir de vous accompagner comme chaque week-end. Avant de retrouver André Bercoff dans tous ses états et son invité Bernard-Henri Lévy, on va s'écouter le dernier titre de Corneille. Le chanteur s'est inspiré de la pandémie et de l'espoir et il signe ici un titre feel good et dansant. Et ça fait du bien vu tout ce qu'on vit. Voici Pause sur Sud Radio.
On le dirait pas. Le mal ça parle fort mais c'est juste des menaces. Tu iras loin, n'attends pas que jeunesse passe. Tout ira bien, bien. Mets-moi sur pause. Si je mets le tout dans le temps parfait, t'es un peu de chose d'être plus grand que je l'imagine.
Un peu jaloux, oui je l'avoue, de ta jeunesse,
dans le meilleur de Sud Radio. Encore un futur tube pour Corneille. Et attention, sortez vos agendas. Le chanteur sera l'invité exceptionnel d'Ivan Cujus en direct mardi à 20h dans le Loft Music. On poursuit maintenant avec André Bercoff dans tous ses états. L'animateur recevait jeudi le philosophe et reporter Bernard-Henri Lévy, venu présenter son livre « Sur la route des hommes sans nom », un livre dans lequel il dénonce les identités hostiles et haineuses en France ou ailleurs.
Le meilleur de Sud Radio.
Ce que je veux dire, c'est que quelque part, vous touchez du doigt, et c'est ça qui me fera dans le paradoxe chez vous, vous touchez du doigt que les chrétiens du Niger, comme les chrétiens d'Orient, qu'est-ce qui est frappant chez eux? Ils veulent garder leur identité. Ils veulent être eux-mêmes. Et on les tabasse, on les décapite, on les viole, et des choses terribles, etc. Les Kurdes, ils veulent une nation kurde, ils veulent être eux-mêmes. L'identité kurde, vous l'avez décrit, faite d'égalité homme-femme, de laïcisme, etc., ou de laïcité, pardon. Bon. Et puis beaucoup d'autres, si vous voulez, l'Afghanistan, enfin, on pourra en parler aussi. Ce que je veux dire, et alors, quand on revient, si vous voulez, et en France, en revanche, je vous ai lu, que ce soit dans Le Point, vous avez votre chronique hebdomadaire et ailleurs, vous avez l'impression que tout ce qui est identitaire français, je ne parle pas de génération identitaire hein, spécifiquement, je dis simplement les problèmes d'identité dont parlait d'ailleurs Fondapol et qui deviennent très importants en Europe. On a l'impression que ça, vous trouvez que c'est quelque chose du domaine de la face noire de la force?
Non, non.
Non.
Pour moi, la vraie question, c'est pas identité ou pas identité, c'est les identités ouvertes et accueillantes et les identités fermées et rabougries. Pourquoi les Kurdes m'intéressent, par exemple? Parce que, en effet, ils veulent une nation kurde, mais est-ce que cette nation sera iranienne? Est-ce qu'elle sera turque? Est-ce qu'elle sera...
Non, elle sera kurde. Enfin, oui.
Oui, mais elle sera tout ça à la fois aussi. C'est les Kurdes qui viennent de plusieurs pays. Est-ce qu'elle sera musulmane ou est-ce qu'elle sera ouverte aux chrétiens, voire aux juifs dont ils espèrent et attendent le retour? Identité ouverte. Les chrétiens de la plaine de Mossoul, je les connais bien. Je suis allé sur la ligne de front face à Daesh, dans des monastères abandonnés par leurs moines, sauf quelques-uns qui tenaient la ligne. Je les ai interviewés, des gens admirables. Là aussi, bien sûr qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce que c'est une identité chrétienne? Non, ils sont chrétiens, ils sont kurdes, ils sont irakiens, ils sont pétris aussi, là, dans cet endroit-là, de culture, de savoir musulmane, de savoir...
Bien sûr.
Voilà,
bien
donc
sûr.
Identité ouverte. Moi, ce que j'aime pas, c'est les identités hostiles, haineuses, pleines de passions tristes, que ça soit en France... Ou, bien pire que ça, que ça soit chez les salopards face auxquels je me trouve dans les endroits que vous avez évoqués.
Oui,
là, en effet, je peux vous dire qu'au Nigeria, le soldat de Boko Haram ou le tortionnaire Fulani, voilà un identitaire qui crie Allahu Akbar, qui hait tout ce qui n'est pas lui et qui découpe à la machette ses victimes. Ça, c'est une identité terriblement sombre.
C'est vrai. Mais si vous voulez, je crois qu'effectivement, il faudrait dépasser ce truc identité fermée ou identité ouverte. Vous avez raison sur l'islamisme radical et vous l'avez parlé. Mais regardez, un pays que vous connaissez bien et que je crois que pour lequel vous n'avez pas de détestation, c'est Israël. Israël s'est fondé sur quoi ? Sur une identité, l'identité juive.
Oui.
Je veux dire, s'il n'y avait pas d'identité juive, pardon, moi ce que je dis, Israël, c'est le premier pays identitaire.
Non.
S'il n'y avait pas de pays, mais il n'y aurait pas Israël, Bernard et Lévy.
Mais c'est pas le judaïsme, c'est pas une identité. C'est tellement plus riche qu'une identité.
Je suis d'accord.
Et Israël, d'abord, être juif, c'est comme dit Emmanuel Levinas, c'est au contraire se faire l'otage de l'autre, c'est s'ouvrir, c'est donner hospitalité en soi à l'autre. Bien,
d'accord.
Vous savez ça, aussi bien que moi peut-être. Israël, c'est l'État des Juifs, mais c'est aussi un État multiethnique. C'est le premier État multiethnique du monde. Les gens qui fondent Israël en 1948,
oui,
ils viennent de Russie, ils viennent d'Amérique,
totalement,
ils viennent des pays arabes, ils viennent d'Europe, ils viennent de partout. Et ils décident, avec des cultures différentes, avec des ethnies différentes, avec des langues différentes. Il n'y en a pas un qui parlait, très peu, parle hébreu. Ils décident de former une nation. C'est un geste sublime. C'est le geste du contrat social de Rousseau, hein, on se rassemble, on se met d'accord, on fonde une nation qui marche. C'est ça Israël. Donc c'est tellement plus fort qu'une identité.
Oui, mais attendez, juste, non mais c'est, de ce côté, vous avez raison, mais vous oubliez le début. Pourquoi un Autrichien laïque qui se fichait totalement de la religion, qui s'appelle Theodor Herzl, qui a fondé le rêve sioniste, enfin qui a fondé l'État juif, parce qu'il sentait qu'il y avait tout le problème, on ne va pas revenir là-dessus, mais qu'il y avait besoin pour les Juifs d'un État. À tort ou à raison, enfin encore une fois, on n'est pas là pour le juger. Mais c'est par essence, c'est sur au cours d'une identité. Et moi, je crois que cette identité n'est pas à rejeter. Ça ne veut pas dire qu'elle est fermée, vous avez tout à fait raison. Mais les Kurdes, mais les chrétiens d'Orient, mais les chrétiens du Liban, etc., et puis beaucoup d'autres, même, je dirais, quelques chiites par rapport aux sunnites, etc., même là, il y a des problèmes. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout basé sur l'identité, et bien sûr, ce serait ridicule. Mais vous ne croyez pas quand même que de ce point de vue, et les peuples que vous avez vus et, et que vous avez côtoyés dans vos reportages et avant déjà, est-ce que quand même il n'y a pas quelque chose qui les fonde et qui n'est pas du ressort de la fermeture, mais qui est du ressort de l'existence, de l'existentiel ?
Il faut peut-être se mettre d'accord sur les mots, mais tous les exemples que vous venez de citer, oui, et je vous remercie de votre honnêteté, c'est en effet les exemples que je prends dans ce livre et que j'analyse. Ce qui les habite, c'est pas une identité, c'est une idée. Theodor Herzl, quand il fonde Israël, c'est pas l'identité juive qu'il a en tête. D'abord, c'est des femmes et des hommes qui sont aussi différents, donc non identiques, qu'il est possible de l'être. Et il le sait. Il sait que cet état des Juifs, qui va être un état refuge pour des femmes et des hommes persécutés depuis des siècles.
Parce que juif,
oui. C'est-à-dire parce que lecteur d'un texte, parce que se souvenant d'une loi qui a été donnée. Herzl, il pense qu'il faut un état refuge pour eux, mais il sait que c'est pas une identité. Les Kurdes dont vous me parlez, ce qui est très intéressant chez eux, et ce qui fait qu'ils sont proches des chrétiens de la plaine de Ninive, c'est qu'ils sont habités par une idée. Et cette idée, c'est quoi ? C'est justement qu'on peut être un peuple et être à cheval sur plusieurs États, que les frontières n'ont pas tant d'importance. D'ailleurs, les Kurdes, ils sont ravis si on leur donne un État pour tout le peuple kurde, mais ils sont contents si on leur redonne qu'un bout. Si c'est juste un État pour les Kurdes d'Irak, ceux que je connais le mieux, avec qui, dont j'ai filmé les combats, ça va aussi. Donc,
mais leur rêve est d'avoir un État kurde, c'est normal. Enfin,
leur rêve est d'échapper. Leur rêve, c'est d'échapper une bonne fois au massacre, au génocide et aujourd'hui aux milices iraniennes et aux janissaires ottomans. C'est ça leur rêve. Leur rêve, c'est de protéger leurs femmes, c'est de protéger leurs enfants. C'est plus avoir à mener une vie de chien où leurs seuls amis sont les montagnes. C'est le grand dicton kurde. Hein, nos seuls amis sont les montagnes. Moi, j'ai vu ce peuple kurde dans ces montagnes, magnifiques d'ailleurs, mais où ils vivent dans un état de solitude et de désespérance totale, où ils se battent pour nous d'ailleurs. Ils sont nos soldats sur le terrain quand il faut affronter Daesh. Et quand Daesh est défait, ou en tout cas quand on croit qu'il est défait, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse tomber, on leur dit allez-vous, débrouillez-vous tout seul.
Donc, c'est vrai.
Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me donne un grand chagrin. Et qui me donne beaucoup à penser.
Le meilleur de Sud Radio, Trina Magdin.
Et pour retrouver André Bercoff dans tous ses états, rendez-vous tous les jours de 12h à 14h. Je propose qu'on réécoute maintenant un extrait du 10h midi de lundi de Valérie Expert. Pour le traditionnel coup de cœur, coup de gueule, l'animatrice et ses débatteurs sont revenus sur un livre de Jean-Marie Roire, Le pays des hommes sans Dieu, un livre contre l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution.
Le meilleur de Sud Radio.
Commençons avec notre tour de table, Sophie, coup de cœur.
Oui, absolument, et j'élève le débat, parce que c'est un livre écrit par Jean-Marie Roire, donc qui est académicien, et qui est sorti aujourd'hui, je crois, ou enfin la semaine dernière, « Ce pays des hommes sans Dieu ». Et je le montre, si on peut le voir, et c'est assez extraordinaire parce que, en fait, c'est un livre contre le principe de laïcité, en tout cas l'inscrire dans la Constitution comme suggère Xavier Bertrand. Oui. Et il fait, c'est absolument remarquable culturellement, et il dit que renoncer complètement à la religion catholique, à la France fille aînée de l'Église, c'est renoncer à notre culture et à notre histoire. Et que c'est pas une question de foi, quoique il explique combien l'homme a besoin de croire, enfin de dire depuis toujours. Et au moment où on a quand même une civilisation qui est l'islam, qui essaie de s'imposer dans le monde entier, opposer un pays où on ne donne pas de où on renonce complètement à l'idée de Dieu, c'est contre-productif et c'est grave au-delà de la religion elle-même. Et franchement, ce pays des hommes sans Dieu, il y a une espèce d'intelligence, de logique à expliquer tout ce que ça représente pour nous. Je veux dire, nos cathédrales, ça veut dire les pays, etc. Alors, il faut pas tomber dans le détail, entre guillemets. Et par exemple, je suis en train de penser, enfin ça, il le cite pas d'ailleurs, mais l'interdiction des crèches dans les mairies, alors que Evian va s'excuser parce que ils ont incité à boire de l'eau le jour du Ramadan. Je veux dire, si on tombe là-dedans, c'est dramatique. Et en plus, je veux dire, il faut respecter la foi quelle qu'elle soit des gens, et la France n'a pas à faire de la laïcité une religion. Et donc, franchement, c'est un, je veux dire, on apprend tellement de choses. Jean-Marie Roire, ce pays des hommes sans Dieu.
Oui, bah écoutez, séché. Quel éditeur
Et bon. C'est chez la collection Bouquins.
Alex, coup de cœur.
C'est un coup de cœur pour cette jeune femme réserviste qui a sauvé la vie d'un homme.
Oui.
Il y a quelques jours, cet homme qui faisait son jogging, qui s'est écroulé, et elle était là, cette jeune femme réserviste qui s'appelle Laurie, de mémoire, et qui a fait les premiers soins, les premiers secours. Elle a massé, rendez-vous compte, 15 minutes. Elle a fait un message cardiaque de 15 minutes à cet homme, ce qui lui a probablement sauvé la vie. Et tout est beau dans cette histoire, parce que d'abord, on sauve la vie d'un homme, et dans les temps actuels, c'est beau à signaler. Et surtout aussi parce que la femme de cet homme qui s'était écroulé a recherché cette sauveuse.
Oui, avait mis des petites affichettes dans le parc où il s'est effondré.
Parc Monceau, je crois, à Paris.
Monceau, absolument.
Et où il s'était effondré. Et puis après, il y a eu un relais par les réseaux sociaux. Donc c'était le meilleur des réseaux sociaux qui en est ressorti. On a réussi à retrouver cette femme. Et puis il y a eu la rencontre, je crois, il y a deux jours entre ces deux femmes. Donc je trouve cette histoire vraiment belle. Et puis ça dit aussi beaucoup de choses sur le fait que on sous-estime quelquefois les gestes de premier secours. C'est pas qu'on les sous-estime, c'est qu'on les met pas assez en avant, à mon sens. Et que, alors je crois qu'il y a des cours obligatoires dans les écoles.
Dans les entreprises, même en principe, mais je vous conseille de le faire parce qu'on n'y pense pas.
Exactement.
Et c'est très facile d'avoir, de donner des cours de premiers soins.
Des soins de premiers soins, et ça peut être vraiment.
Ça s'appelle formation SST, me dit Bastien, notre.
Voilà. Alors cela dit, je suis à 200% d'accord, c'est formidable. Et en même temps, pardon. Il y a le côté tellement tellement actuel, tellement feuilleton, tellement il l'a retrouvé, j'étais dans les réseaux sociaux. Bon, d'abord qu'elle masse un quart d'heure, heureusement qu'elle masse un quart d'heure, et j'espère que n'importe qui d'entre nous l'aurait fait, mais ça n'empêche pas que c'est fabuleux. Ouais. Mais le Parisien qui en fait quasi la une, où elle rencontre la femme du mec qui était à l'hosto. Est-ce que c'est pas aussi un des travers de la société, de l'émotionnel Bon, alors, c'est un bon exemple. S'ils étaient tous comme ça, on est d'accord.
C'est vrai qu'il y a un moment, j'ai trouvé ça formidable, mais de voir cette photo de la fichette en permanence.
Après, elle a été retrouvée, il y a une rencontre. Moi, je trouve que c'est bien dans les temps actuels, quand on parle que de mauvaises choses, que des uns contre les autres, rien ne va dans la société. Bon, voilà, il y a quelque chose qui va. Et il y a une rencontre, une belle rencontre. Et puis surtout, elle a sauvé la vie d'un homme.
C'est ça le plus important. Les médecins ont dit que si elle n'était pas intervenue tout de suite dans la première minute, ça aurait pu être très, très, très grave.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Pour retrouver Valérie Expert et ses invités, rendez-vous dès lundi, bien sûr, dans le 10h midi. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec la chronique de Cédric Cizère qui a répondu en humour, comme d'habitude, à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Restez avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
De retour pour la dernière partie du Meilleur de Sud Radio. Merci d'être toujours nombreux à nous écouter. Je vous propose maintenant qu'on écoute un titre de Francis Cabrel. Fidèle à son ADN artistique, le chanteur fait du bien à nos oreilles avec sa guitare acoustique, une fois de plus, sur un titre mélancolique qui parle d'un amour éphémère. Voici À l'aube revenant sur Sud Radio.
À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves. Encore ruisselant, chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmure brûlant. Il s'était perdu dans l'obscurité profonde, là les étoiles se fondent. Au jour apparaissant, à leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde,
encore un instant. Le souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent, une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux, l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Au moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige et faire semblant. Se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. À l'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve, le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants.
À l'aube revenant sur Sud Radio, chanson éponyme du dernier album de Francis Cabrel, sorti en 2020 après 5 longues années d'absence. Comme tous les week-ends, on va terminer en humour avec la chronique de Cédric Cizère. Mercredi, il a répondu à vos messages laissés sur le répondeur de Sud Radio. Et il en a profité pour faire un point sport, totalement décalé, bien évidemment.
Le meilleur de Sud Radio.
Bonjour mes chers compatriotes.
Non, je ne vous dis pas bonjour.
Mais moi, je dis bonjour à la France entière, bonjour au monde entier, parce que j'ai envie de revenir, bien sûr, sur l'événement sportif d'hier. Le monde entier avait les yeux rivés sur ce terrain. Benoît Paire a gagné un match. Oh la, 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 la. Il a passé le premier tour du tournoi de Madrid. Quel exploit, une légende. Le monde du tennis se souviendra encore dans 100 ans de ce 6-4, 7-5.
On est un peu étonné que vous parliez de ça, parce qu'il y avait quand même un événement hier soir.
Ah, vous voulez vraiment que je revienne sur le fait qu'on est encore les seuls à avoir gagné la vraie Coupe d'Europe, ça pour les 200 prochaines années? Vous voulez vraiment que je revienne sur ça?
Oui.
Ok, bah alors musique s'il vous plaît. Musique.
Voilà.
Ça va arriver. Voilà pourquoi cette musique. Parce que le PSG est définitivement le Jean-Claude Duss du foot. En Ligue des Champions, il ne conclura jamais.
Je n'ai qu'un mot à dire, c'est...
Mais non, c'est pas Jean-Claude Duss. Encore une fois, Neymar avait dit avant le match: je serai le premier guerrier à partir au combat. Alors oui, c'était le premier à partir, mais on l'a pas vu arriver. C'est ça le problème. Tu peux enlever la musique parce que là, quand même, c'est trop triste. Il y avait le soldat inconnu hier, c'était le soldat invisible. Alors battre le Barça, battre le Bayern et se faire éliminer par Manchester City, qui n'a jamais été en finale de Ligue des Champions, quand même, je le précise. C'est comme si tu arrivais à pécho Jennifer Lopez, puis Beyoncé, et puis finalement, tu te maries avec Christine Boutin. C'est un petit peu ce qui se passe pour le Paris Saint-Germain,
c'est
Patrick.
Choix, c'est un choix.
C'est un choix, mais Patrick, vous avez kiffé hier soir, bien sûr. Ah bah c'est magnifique.
C'est aujourd'hui, c'est la journée du...
Ah ouais, la belle réaction sportive. Alors le seul Parisien qui aura cette année en finale de Ligue des Champions, c'est Thomas Tourelle. Thomas Tourelle, l'ancien entraîneur qui a
été
viré.
Attendez, c'est pas sûr. Oui, mais il y a de grandes chances qu'il ait été viré le jour de Noël. Mmh. Et finalement, c'était peut-être le plus beau cadeau de Noël pour lui. Mmh. Alors, on connaît l'expression « en mai ».
Alors, il faut dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il est entraîneur maintenant de Chelsea et que Chelsea joue ce soir en demi-finale contre le Real Madrid. Et donc,
Zidane,
il peut se qualifier pour la finale.
Ils sont en bonne posture. Ouais, ouais. Ils sont en bonne posture. Mmh. Alors, on connaît l'expression « en mai, fais ce qui te plaît mmh. ». Il y a aussi « en mai, le PSG perd ». En mai, perd le PSG. En PSG, ils vont chanter « mes chers parents, je perds ». Je vous aime, mais je perds. N'importe Cécile me regarde avec elle méchamment. J'avais jamais vu comme ça.
Qui vous écrit ces textes, imbécile ?
C'est moi, c'est moi. C'est Michel Sardou aussi, que j'embrasse. La bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière fois que je vous parle du PSG cette saison.
Ah bon ?
C'est terminé. Ah bah oui, je parle pas d'une équipe qui termine deuxième du championnat de France. Ça ne m'intéresse pas.
Mais il y a encore des choses à gagner, je vous rappelle.
Le championnat de France et la Coupe de France. Le championnat de France est terminé. La Coupe de France, on s'en fout. Vous savez très bien. Tout le monde s'en fout. Alors, je suis doublement guilleré ce matin. Mmh. Parce qu'hier, pour la première fois de ma vie, j'ai appris que j'étais trop mince. Mmh. Première fois de ma vie, comme dit
bah
ça.
Bon, pourquoi ?
Ah, première fois, j'ai voulu me faire vacciner. Mmh. Je suis donc allé chez mon vétérinaire, mmh. le fameux docteur Cabot, oui. que vous connaissez, qui vous embrasse d'ailleurs, si, qui vous attend.
Oui.
J'avais rendez-vous à 15h, juste ouais. après son opération de chirurgie esthétique sur une caniche. Mmh. Pour son anniversaire, Chanice, la caniche, voulait absolument une nouvelle paire de seins en 95D. Mmh. Parce que les chiens, ils sont comme les humains maintenant. Vous voyez, ils ont des prothèses mammaires, ils ont des comptes aux îles Caïmans, comme nous. Et c'est normal, je suis antispéciste, donc je trouve ça normal. Et là, c'est le docteur Cabot qui me dit : ah non, Cédric, je vous vaccine pas. Vous êtes trop maigre. Il m'a dit, vous êtes trop maigre.
Ah, trop maigre.
Et oui, mais trop maigre, il monte 22 kilos. Alors, il faut atteindre l'indice de masse corporelle de 30. Et j'y suis pas encore, malgré les trois confinements. Bon, je pense qu'encore deux confinements, et j'y serai. Je pense qu'on y sera tous. On sera tous sumo dans un an. Et un auditeur qui a voulu aussi se faire vacciner témoigne.
Bonjour, je suis Marc-Sébastien, toiletteur pour chiens, pour chats et pour femmes.
Très bien.
D'accord. Bon, alors moi, j'avais 27 kilos de moins que la limite pour pouvoir me faire vacciner. Mais heureusement, j'ai pu avoir du Pfizer, car j'ai pris 32 kilos en une semaine.
Mais comment ?
Ah bah j'ai suivi le régime de Jean-Michel Cohen. Hein.
Ah le retour
bah oui.
de Jean-Michel Cohen.
Arrêtez s'il vous plaît, mon ami Jean-Michel Cohen, s'il vous plaît. Jean-Michel qu'on embrasse, qui nous écoute
Bien
tous les
sûr.
Matins. Il est 8h38, là il en est à son deuxième gigot d'agneau de la journée.
Donc, pommes de terre.
Pommes de terre, toujours les pommes de terre.
Bien sûr.
C'est obligatoire. Alors vous avez remarqué, quand on demande son poids à un homme, il y a toujours 5 kilos de moins. Il y a toujours 5 kilos de moins. Ouais. Vous avez pas, vous faites pas ça vous Patrick
non, non.
Vous ne dites pas ça
non,
mais
est-ce que les hommes savent exactement combien ils pèsent d'ailleurs
Psychologiquement oui, ils se voient plus minces qu'ils ne sont, bien sûr, c'est normal. Et quand on demande à un homme sa taille, il donne toujours 5 cm de plus.
Oui.
Patrick, par exemple, il fait l'inverse. Pour ne pas effrayer les femmes, il donne toujours 10 cm de moins. Je vous connais, vous avez bien raison. Et on parle de régime.
Parce qu'il est modeste.
Mais il est très modeste, Patrick. C'est pour ça qu'on l'aime. Alors, on parle de régime. Bah, pas loin de Limoges, en Floride, un gérant de fast-food qui fait des Big Mac et des Happy Meal est en galère. Vous avez vu, j'ai pas dit McDo, j'ai dit fast-food. Ce gérant n'arrive pas à recruter de nouveaux employés, alors il a décidé de donner $50 à chaque personne qui viendrait pour un entretien d'embauche.
C'est bien ça.
C'est génial. Franchement, j'ai jamais vu ça. Patrick, vous avez déjà vu ça, vous ?
Non.
Vous avez déjà fait ça ?
Non.
Mais non.
Non.
Mais je trouve ça incroyable aussi. On m'avait payé pour chaque entretien d'embauche que j'ai passé. Aujourd'hui, je serais plus riche que Bill Gates. Quoique, il divorce. C'est un mauvais exemple. Je pense que maintenant, je suis plus riche que Bill Gates, vu ce que sa femme va lui prendre. Alors, je crois que dans ma carrière, j'ai passé plus de temps en entretien d'embauche qu'à bosser.
Ah, très bien.
On m'engage jamais. Alors, pourtant, j'ai les compétences.
Ouais.
Mais je pense que c'est parce que j'ai des origines africaines.
Ah bon ? Vous avez des origines africaines ?
Oui. Nord-africaine, puisque je viens d'Avignon.
Ouais.
Donc, nord-africaine. Et faut que ça devienne un vrai métier, candidat à l'embauche. Moi, j'aimerais bien. Tu fais 3 entretiens par jour, à 50 euros, ça te fait 3000 balles par mois, quand même.
Ah oui, c'est pas mal. Ben,
c'est pas rien.
Ça se réfléchit. Hein.
Et ça se réfléchit. En plus, on te paye pour mentir.
Ouais.
Moi, j'adore ça, puisque sur 20 minutes d'entretien d'embauche, tu mens 25 minutes à peu près.
Ouais.
On fait que ça. Je sais faire ceci, Word, Excel, alors qu'on sait même pas l'utiliser. Ouais. Et mon métier, c'est un petit peu pareil. Patrick, vous me payez quand même le matin pour dire n'importe quoi.
Ouais.
Et c'est un avantage,
c'est
quand même.
C'est ça qui est incroyable.
Ouais, c'est
et tous les jours, vous dites, c'est pas possible, je vais arrêter cette mascarade.
Mais arrêtez de le dire, parce qu'on va en prendre conscience.
Mais je sais, mais j'aime bien dire ça. Alors, Jean Castex a évidemment pointé du doigt cette pratique scandaleuse de payer un candidat à l'embauche.
Bah
franchement,
oui.
C'est n'importe quoi. Alors, on l'écoute en direct de Matignon.
Ah bon ?
Bien sûr.
Française, Français, le gouvernement vous confirme qu'en France, on ne paiera jamais personne pour un entretien d'embauche.
Dommage.
La raison est simple. En France... il n'y a pas d'embauche.
Ah bah oui,
ah oui bah
c'est vrai qu'il
n'y
a plus d'embauche, c'est terminé.
Ah bah c'est réglé comme ça, au moins c'est clair, il n'y a pas de travail,
plus de magasin,
pas d'embauche. Ouais.
Enfin, bon, pour rétablir, voilà, évidemment c'est de l'humour, mais pour rétablir les choses, c'est vrai qu'il y a au contraire beaucoup, beaucoup d'embauches, mais on ne trouve pas de gens pour
Vous avez vu dans les restaurants,
partout.
Peut-être que je vais me réorienter vers la restauration.
Ouais.
Cécile,
ouais,
je vous attends dès ce soir. Je
pourrais raconter des blagues
de
serveurs.
Mais
on les embrasse, ces serveurs.
Bien sûr qu'on les embrasse.
Parce que ce n'est pas un métier facile quand même, parce que vu les clients parfois en tout cas. Merci Cédric Cizer d'avoir été avec nous.
Le meilleur de Sud Radio, Trina McDean.
Cédric Cizer, que vous pouvez retrouver du lundi au mercredi à 8h20 dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Sud Radio.